Ça va peut-être vous toucher personnellement. Ça vous touche peut-être parce que c'est votre cas, peut-être parce que vous pensez à vos parents, vos grands-parents. Chute chez les aînés ce matin avec la docteure Mélissa Généreux, qui est directrice de la santé publique en Estrie. Bon matin, Mélissa.
Bon matin, Steve.
On en parle parce que, bon, vieux pas, la population vieillit, puis la vie étant un sens unique, on y arrivera tous un jour.
Oui, puis j'ai toujours un peu une gêne quand je parle de personnes aînées, hein, parce que normalement, on fait référence aux 65 ans et plus, mais comme on se dit un peu hors d'onde, à 65 ans, c'est très inégal. Là. Il y a certaines personnes ultra en forme.
Ah oui.
Mais toujours est-il que chez les 65 ans et plus, au sein de notre population, là, c'est quand même presque une personne, non, même plus qu'une personne sur 5 qui est âgée de 65 ans et plus. Et la proportion va monter à 30 % d'ici 10 ans. Donc, ça fait partie de notre réalité. Mm-hmm. On a une population qui vieillit.
L'impression qu'on a souvent, Mélissa, c'est que les chutes, évidemment, plus on vieillit, mais c'est parfois le début de la fin.
Hein? Exactement.
Quelqu'un qui tombe, là, puis qui, là, doit se faire remplacer une hanche ou toutes sortes d'affaires, il me semble que par la suite, c'est souvent très difficile pour cette personne-là.
C'est sûr qu'encore une fois, c'est variable. On peut avoir une chute à 63, 65, puis ouais, s'en relever sans problème. Mais bon, évidemment, il y a des conséquences physiques. Là. C'est sûr que lorsqu'on chute avec blessure, ça peut occasionner des fractures. Tu parlais de fractures de hanche, puis ça, c'est vraiment plus préoccupant. Je ne veux pas être prophète de malheur, mais pour les fractures de hanche associées aux chutes, il y a la moitié des gens qui, à la suite de la fracture, ne vont pas retrouver complètement leur autonomie. Puis il y a quand même un aîné sur cinq, après une fracture de hanche, qui devrait décéder au cours des 6 mois suivant la fracture d'hanche. Oui, oui, oui. Donc, puis bien évidemment, c'est très variable, mais tu sais, il faut avoir ça en tête. Donc, c'est loin d'être banal là, de souffrir d'une fracture de hanche. Sinon, mais il y a toutes les autres fractures, clavicule, bras, la colonne vertébrale, bassin.
Bon, n'importe quoi, nez.
Les commotions cérébrales.
Commotions,
aussi.
Ben oui.
Et au-delà de ça, on en parlait aussi, je pense que c'est tout le phénomène de peur de tomber qui est associé, moi, qui nous préoccupe beaucoup d'un point de vue de santé publique. Donc, encore une fois, ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais plusieurs aînés, après avoir chuté, vont tellement avoir peur de rechuter à nouveau qu'ils vont avoir tendance à diminuer un peu leurs activités, moins sortir, prendre moins de risques. Et ça va amener un déconditionnement.
Plus sortir, bien souvent,
mais non.
L'hiver, là, tu vas entendre ça souvent, des personnes aînées qui vont dire « Ah non, je ne sors plus. » Écoute,
avec l'hiver qu'on a eu, ça fait presque 6 mois à ne
pas sortir. C'est pas mal long.
Bon, ça, c'est sûr que ça vient jouer sur le conditionnement physique, les capacités physiques. Puis ça, c'est comme
social.
Un peu un cercle vicieux, social. Donc là, perte de conditionnement physique, perte d'autonomie. Et donc, on sait que une admission sur 8 en CHSLD va être directement causée par une chute. Ça va jusqu'à
aïe
ce point-là.
Oui, oui, oui. Aïe.
Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment pertinent là, de parler des chutes. Et c'est sans compter les coûts pour la société. Là. Écoute, au Québec, on a estimé à près de 2 milliards de dollars par an les coûts associés aux chutes, là, soit les soins de santé ou les coûts plus indirects.
Donc, c'est dire que la fréquence, entre guillemets, de chute est quand même élevée?
Oui, en fait, si je regarde en Estrie, c'est un peu pareil ailleurs au Québec. Là, on estime qu'on a un aîné sur 5 qui va chuter à chaque année. C'est quand même beaucoup. Si je le mets en termes de chiffres, là, on a un petit peu plus que 100 000 aînés en Estrie, à peu près 20 000 qui vont chuter dans l'année. Parmi ceux-là, c'est pas tout le monde qui se blesse, mais on en a quand même 5-6 000 qui vont se blesser. On en a un peu plus que 1 000 qui vont être hospitalisés à chaque année pour cause de chute, dont 360 fracture de hanche et malheureusement une 60aine qui va décéder à chaque année.
Donc, ça semble banal, mais de un, les impacts sont importants, autant pour la personne, sa santé, etc., que l'aspect financier aussi. Facteur de risque, là, c'est un peu particulier parce que je me dis, outre la météo, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut mettre ça à risque?
Oui, parce que c'est ça. Comme on dit, c'est pas tout le monde qui a le même. C'est pas parce que tu tournes à 65 ans que tu es à risque nécessairement de chute. On aime bien classer deux grandes familles de facteurs de risque, donc l'environnement puis ce qui est lié à l'individu. Donc, l'environnement extérieur, si je refais encore référence à l'hiver, ben, la façon dont nos trottoirs sont aménagés, ça va avoir un impact direct. Si on a une municipalité qui est très, très proactive, qui va déglacer les trottoirs rapidement, si on a du temps suffisant pour traverser l'intersection, etc., moins de risque de chute. La façon dont on aménage notre domicile, c'est hyper important aussi. Là. Les ergothérapeutes seraient les premières à vous le dire. Si on n'a pas de main courante à côté de l'escalier, évidemment, ça augmente le risque. La façon dont notre salle de bain est arrangée, si on a des petits tapis là, qui fait qu'on peut glisser. Si notre éclairage est insuffisant la nuit, ça peut être suffisant pour dire qu'on a une chute. Donc, tu sais, tout ça, il faut y penser puis surtout aller chercher de l'aide des professionnels pour être sûr là, que tout est bien organisé. Puis après ça, il y a tout ce qui est lié à l'individu. Ça, je pense que c'est important. Dans le fond, qu'est-ce que nous-mêmes, on peut changer là, dans nos comportements ou nos habitudes de vie? Bien, je reviens toujours à ça, mais le conditionnement physique, c'est majeur. Parce qu'en vieillissant, on a tendance à un petit peu moins faire d'activité physique, donc une faiblesse musculaire. Puis plus on est faible au niveau musculaire, bien, plus on perd notre équilibre. Donc, dès qu'on va trébucher, ça va être ça qui va être suffisant là, pour tomber puis se blesser de façon assez importante. Sinon, un autre point sur lequel je veux mettre l'accent, c'est la prise de médicaments multiples. Là, je suis pas en train de dire qu'il faut pas prendre des médicaments qui nous sont prescrits, absolument pas, mais vraiment être vigilant par rapport à ça, puis pas hésiter à en parler. Peut-être là, si votre père, mère, vos grands-parents prennent beaucoup de médicaments, discutez un peu avec le médecin, pharmacien. Est-ce qu'il y a un
somnolence?
Ben oui, les petites pilules pour dormir, ben veut pas, ça l'affecte le système nerveux central, ça rend un peu plus étourdi.
Puis dites-vous des fois, il y a des gens qui ont des conditions tellement complexes qui ont l'air drogués. On va se dire vraies affaires, là, tu les rencontres, tu te dis, tabarouette, elle prend une dizaine de pilules, c'est assez pour assommer un cheval. Ben ça doit rentrer en ligne de compte aussi. Si la personne, vous la regardez physiquement puis que tu dis, OK, ça a l'air quand même fortement touché. Ouais.
Ben puis c'est quand même triste parce que souvent, pour les personnes âgées qui commencent à avoir certains problèmes de comportement ou de troubles cognitifs, Alzheimer, tout ça, on va être porté à prescrire des médicaments qui vont un peu...
diminuer.
Pas les assommer, mais des psychotropes là, qui vont venir un peu tempérer les comportements. Mais ça a aussi un effet, comme je disais, sur le système nerveux. Puis ça peut provoquer des risques de chute. Donc, en essayant de régler un problème, on augmente un autre type de problème.
Merci beaucoup, Mélissa, d'être passée avec nous ce matin.
Ça fait plaisir.
Merci.